Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. C'est l'un des sujets qu'il suffit de mettre sur la table pour enflammer le débat. Faut-il faire payer les stationnements plus chers aux SUV? Les Parisiens ont dit oui lors d'une consultation ce week-end à 54% avec un taux de participation de moins de 6%. Anne Hidalgo s'est félicitée. Mais déjà, monte le débat et la grogne sur le choix d'une écologie que le gouvernement qualifie désormais de punitive. Alors la gauche, les Verts, accuse ce même gouvernement de faire machine arrière et cible une équipe Attal de droite. Alors, est-ce que le Premier ministre va tenter de rééquilibrer son équipe? Il travaille d'ailleurs sur une deuxième salve de nomination en ce moment même, avec un nom de retour qui pourrait peut-être faire son entrée dans la liste, celui de François Bayrou, relaxé aujourd'hui dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. SUV, pesticides, la fracture écolo, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction au Figaro. David Doucan est avec nous ce soir. Vous êtes rédacteur en chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France. À la une aujourd'hui, trop c'est trop. Les normes après les agriculteurs, la grogne gagne d'autres secteurs. Anne-Charlotte Bézina est avec nous. Vous êtes constitutionnaliste, politologue, maître de conférences en droit public à l'université de Rouen et à Sciences Po. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP, auteur de La France d'après aux éditions du Seuil. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons aborder tous ces sujets ce soir, mais d'abord quand même un mot sur cette consultation, comment s'appelle ça, une votation, hein, en tout cas.
La Suisse.
Voilà, à la Suisse. En tout cas, Anne Hidalgo a demandé aux Parisiens de se prononcer, Yves Tréhard, et ils ont dit oui, 54%.
Oui, mais un petit oui.
Et ils ont dit oui.
Un petit oui.
Ils ont dit oui, petit oui, pour taxer les SUV.
Pour taxer les SUV, c'est-à-dire les grosses voitures. Ouais. Qui font plus d'une tonne 6 quand elles sont pas électriques et deux tonnes quand elles sont électriques. Je dis que c'est un petit score parce que finalement il y avait quasiment un corps électoral d'environ 1,2 million, 1,3 million d'électeurs et il y en a que 72 000 qui se sont déplacés, donc c'est vraiment ridicule. La faute à la mairie de Paris qui n'en a pas fait la publicité, la faute peut-être aux médias qui n'ont pas relayé comme il faut. Et puis je dis que c'est un petit score parce que normalement ça devrait être plus tranché que ça. Et là ça prouve que la mairie de Paris qui a beau se satisfaire de ce résultat, eh bien est quand même en difficulté. Alors il y a une deuxième remarque à faire, c'est que quand on regarde, mais ça je laisserai Jérôme le dire, quand on regarde le vote, il est vraiment clivé entre les arrondissements de l'Est qui sont pour cette mesure et des arrondissements de l'Ouest où on est réputé rouler avec des plus grosses voitures qui sont contre.
Et on est dans ces fractures françaises sur l'écologie qu'on va essayer d'expliquer ce soir, qui sont
difficiles à surmonter. Ouais. Fractures qui ne sont pas uniquement françaises, qui sont vraies dans toute l'Europe et dans une partie du monde, il faut le dire.
Jérôme Fourquet, je commençais cette émission en disant il suffit d'évoquer, on a tenté à la rédaction, de poser ce sujet sur la table pour que ça hérisse. Et quels que soient les sujets en ce moment liés à l'écologie, c'est vrai qu'on sent une forme de crispation sur écologie punitive, pas punitive, faut-il taxer et interdire pour faire bouger les mentalités et les pratiques?
Oui, alors pour deux raisons. La première, parce que ce sont des sujets qui touchent à nos modes de vie. Et donc, c'est constitutif de ce qu'on est. Et la deuxième, c'est que si tant est qu'on prenne de ces mesures, eh bien, elles vont modifier vos modes de vie, on l'a dit. Et aussi, ces débats visent aboutissent à montrer du doigt tel ou tel type de comportement en disant quels sont les bons citoyens et ceux qui seraient moins vertueux. Alors, Yves Tréhard l'a dit, quand on regarde la carte...
C'est dingue, hein. C'est vraiment une fracture très nette entre l'Est et l'Ouest.
Donc on a, au hasard, le 16e arrondissement qui a voté à 82% contre, et puis les arrondissements de l'Est parisien qui ont voté à plus de 70% pour. Alors, comment ça s'explique? Pour deux raisons. La première, c'est comme on a un tout petit corps électoral, c'est le public le plus militant qui s'est déplacé aux urnes. Donc c'est les gens qui
sont les
plus politisés, d'où les scores très tranchés. La deuxième, c'est que, comme on le disait à l'instant, c'est des modes de vie qui sont derrière. Et les arrondissements de l'Ouest parisien sont encore ceux qui sont, comme on dit dans le jargon aujourd'hui, les plus motorisés. Il y a 51% de foyers qui possèdent une voiture dans le 16e, alors que ce taux est entre 20 et 30% dans l'Est parisien. Et donc c'est aussi le rapport à la ville, le rapport à comment on se déplace, comment on envisage la ville demain, qui se joue, et pas uniquement l'idée de faire trébucher ou non la maire de Paris et son équipe. Alors, pour la petite histoire, le 7e arrondissement de Rachida Dati vote à 74% pour le non. Mais on est là dans un arrondissement où il y a encore 43% de gens qui possèdent une voiture. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin des années 90, le taux de possession de voitures à Paris, c'était à peu près 50%. Et donc, ces arrondissements de l'Ouest, ils sont restés à peu près à ce taux-là, alors que le taux s'est effondré dans l'Est parisien. Donc, c'est encore un rapport à la ville d'avant. Pompidou parlait de la bagnole. C'est lui qui avait inauguré les voies sur berge. On se rappelle des mandats de Jacques Chirac, qui, en tout cas, au début, avait aménagé la ville pour que Paris soit livré quelque part à la voiture. Si on reprend le bilan d'Anne Hidalgo et de son prédécesseur, M. Delannoy, entre 2002 et 2022, la circulation automobile a baissé de 50% à Paris. Et donc, la mutation était engagée. Jean Tiberi avait déjà commencé à faire refluer la part de la voiture. Mais on a ces arrondissements de l'Ouest qui restent encore accrochés à leur vision traditionnelle de la ville, alors que les arrondissements de l'Est et du Centre sont passés à autre chose.
Et Jérôme Fourquet, on parle de Paris, mais ce sujet-là, on va l'avoir dans toutes les grandes métropoles. Quand on parle aussi des ZFE et de la place de la voiture, c'est un exemple avec l'idée que la taxation des grosses voitures et des SUV est aussi en débat dans certaines autres métropoles. Je me tourne vers vous, David Doucan, au journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Vous l'avez traité, ce sujet-là. Juste une petite, je mets cette information dans le débat. Quand on dit c'est quoi un SUV, il va falloir peser la voiture, parce que ça concerne les voitures de plus de 1500 kilos. Donc ça veut dire 1600 kilos. Donc ça veut dire que, par exemple, un Espace, il y a des modèles à 1547 kilos et d'autres à 1663 kilos. Et là, on se dit, on va retrouver le truc des normes et des choses très compliquées à mettre en application.
Oui, c'est le problème avec certaines mesures écologiques, c'est que paradoxalement, elles déclenchent des usines à gaz. Et là, vous venez de le dire avec clarté, on en prend le chemin. Un élément d'archéologie. Vous évoquiez cette participation si faible et vous disiez peut-être qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Juste qu'on se souvienne, l'annonce de l'organisation de cette consultation a été faite au moment où Anne Hidalgo était dans des polémiques, vous vous en souvenez sans doute, à cause d'un voyage dans le cadre des Jeux Olympiques à l'autre bout
à Tahiti.
Et il y a eu cette annonce qui a été faite. Bon, et à ce moment-là, ça a fait grand bruit. Peut-être que l'annonce, peut-être que l'organisation de cette consultation visait aussi peut-être à ramener, tout simplement à ramener le sujet, le débat public sur le terrain qu'elle affectionne le plus, à savoir la défense de l'écologie, et une défense de l'écologie qui, pour la maire de Paris, se concentre sur le sujet de la voiture. Et c'est là. Et c'est là que vous élargissiez le débat à toute la France, et vous avez raison. Pourquoi ? Parce qu'au fond, nous avons un point commun, sans doute avec nos amis américains, c'est qu'en France, la voiture, même aujourd'hui en 2024, ça
on
reste,
aime la bagnole, c'est ce que disait Emmanuel Macron.
Mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça, Emmanuel Macron ? Il perçoit quand même dans le pays cet aspect-là qui est un aspect fondamental. Ça reste un symbole de liberté.
Oui.
Décider de prendre sa voiture et décider quel modèle de voiture j'achète. Ça, ça reste. Peut-être est-ce un tort. Peut-être faut-il travailler là-dessus. Peut-être que les mentalités doivent évoluer. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et nos concitoyens sont attachés à cet objet parce qu'il symbolise beaucoup, beaucoup pour eux. Et je conclue d'un mot. Vous disiez, ce sont des sujets qui tout de suite mettent le débat à feu et à sang. Mais oui, mais parce que, tout simplement, parce que ça touche à ce qui fait l'identité au fond de certains de nos concitoyens, c'est de dire j'aimerais pouvoir choisir ça. Ah non, tu ne pourras pas choisir ça.
Ouais.
Et ça va t'être imposé. Regardez l'attitude que certains peuvent avoir vis-à-vis de la voiture électrique. C'est-à-dire oui, la voiture électrique c'est super, mais enfin c'est pas pour moi. Quoi.
C'est pas pour moi parce que c'est trop cher.
Parce que c'est pas adapté.
Ouais.
Parce que pour dès que j'ai un peu trop de trajet, dès qu'il y a besoin de davantage d'autonomie, eh ben on se rend compte que les infrastructures sont pas encore là, etc. Et donc dans ce sujet-là, votre défi en tant que responsable politique, c'est de ne plus être les uns contre les autres, mais de mettre les uns avec les autres dans un objectif commun. Pour l'instant, on n'y est pas.
Sur le SUV, on peut quand même dire, pour les gens qui nous regardent, c'est les plus grosses voitures qui permettent de temps en temps aussi de mettre toute la famille. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément toujours un choix. Parfois, on a besoin de grandes voitures pour mettre une grande famille dedans. Oui, vous vouliez dire un mot, allez-y, à Charlotte Bellina, sur ce qui vient d'être dit, sur ce débat qui crispe, sur la décision d'Anne Hidalgo de passer par quelque chose qui est un peu contraint, de dire de toute façon, si on attend que les gens le fassent d'eux-mêmes, ils ne le feront pas. Donc, il faut une écologie un peu de la taxe.
C'est ça, en fait, qui est un peu perturbant avec l'écologie, c'est qu'en fait, on a le sentiment qu'on passe soit d'une écologie, pendant longtemps, on a parlé d'écologie peu normative, de textes qui étaient un peu babillants, qui donnaient tout simplement des grands vœux pieux, etc. Le cas de notre charte de l'environnement, d'ailleurs, hein, dans notre constitution. Et puis, on est passé ensuite à un braquet totalement inverse, avec finalement une écologie qui frappe les Français dans leur quotidien, au portefeuille, etc. Et je vous rejoins lorsque vous dites, finalement, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème d'engagement. L'écologie, c'est avant tout une écologie du résultat, c'est-à-dire qu'on a un petit peu un écueil de vœux pieux, un autre écueil qui va être celui de taper très fort, mais au fond, il faudrait aussi qu'il y ait des plans B, des alternatives. Et ça me rappelle le débat qu'avaient eu les Gilets jaunes, justement, sur cette question, en disant l'écologie qui consiste à avoir des taxes, etc., mais qui ne nous propose pas autre chose, c'est vraiment un petit peu ça le problème. Juste un point aussi pour revenir sur, on a parlé des grandes villes, et c'est vrai que c'est dans ces grandes villes que les enjeux de votation autour du SUV et des manières en fait de pratiquer les mobilités, c'est comme ça que ça s'appelle en droit maintenant, le vélo, les trottinettes, etc., et bien ça motive beaucoup, et c'est un enjeu, et le gouvernement en est conscient puisqu'il a lancé, alors c'est Elisabeth Borne hein, quand elle était encore là, qui avait lancé des plans grandes villes, justement, des comités urbains, parce qu'en fait, on se rend compte que l'écologie, elle est essentiellement à taille humaine, en fait, il faut qu'elle s'adapte au cadre de la ville. Et ça pose beaucoup de contraintes. Vous parliez des normes. La question de savoir si on veut, oui ou non, un SUV, ça ne suffira pas à poser cet enjeu contemporain qui est le fait de savoir comment on va faire des villes vertes, comment est-ce qu'on va créer tous les enjeux urbanistiques autour de tout ça, parce qu'on a nos monuments historiques, on a une certaine manière de vivre, et la voiture en fait partie, les nouvelles mobilités aussi, et tous ces enjeux-là, ça ne peut pas être que de la punition. Il va falloir que les responsables publics montrent justement la voie aussi. Oui. Et on
mais va. Quand on voit qu'on laisse le temps et le choix aux mairies de s'adapter à leur rythme, parfois elles disent il est urgent d'attendre, on va le voir sur les ZFE, puisque c'est un sujet aussi qui fait débat. Oui.
Moi, je voudrais rebondir sur ces considérations qui sont, me semble-t-il, très importantes, parce qu'elles fracturent la société française. Quand j'écoutais David Doucan, je me disais, mais finalement, il y a deux conceptions de la liberté, et une conception qui est plutôt de droite et une conception qui est plutôt
allez-y.
De gauche. La conception de droite, c'est la liberté de circuler. Et la liberté de circuler, ça passe par la bagnole. Et la conception de gauche, d'une certaine façon, c'est la liberté de respirer de l'air pur, de vivre sans les contraintes, justement, de la civilisation dite post... enfin, de la civilisation industrielle. Et c'est assez frappant de voir que, quand vous regardez un petit peu les discours qui défendent l'écologie, et d'un côté... et de l'autre, eh bien, quand on vous parle d'écologie punitive, c'est systématiquement un discours
à droite.
Plutôt à droite, et un discours plutôt punitif en disant « il faut taxer pour arriver à ses fins », c'est un discours plutôt de gauche, et l'impôt est plutôt de gauche, alors que le non-impôt est plutôt de droite. Et on arrive...
Mais est-ce que vous diriez, on va aller au premier reportage, mais juste un mot avec vous, Jérôme Fourquet, est-ce que vous diriez que plus on avance, et on l'a vu avec la crise des agriculteurs, plus ce clivage-là se marque ? On n'est plus sur une appréciation un peu molle de la façon dont il faudrait faire, et quelque chose qui est une forme de brutalité. Alors, dans le clivage, dans la façon alors, dont on a aujourd'hui de concevoir... l'écologie, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Alors, à quel rythme il faut y aller?
Alors, la brutalité provient du fait que maintenant, il faut passer aux travaux pratiques.
Oui, c'est ça.
On a fini la charte, etc. Mmh. Et la société française, dans son ensemble, prend conscience de la réalité du changement climatique et de l'urgence à y aller. Donc, on ne peut plus tellement...
Différer,
même si on dit, voilà, pour tel secteur, on va le voir sur les agriculteurs, etc., etc. Et donc, les décideurs publics se disent, si on ne peut plus différer, maintenant, il faut passer aux actes. Les Français pratiquent déjà depuis longtemps, en tout cas, une partie d'entre eux, les petits gestes du quotidien. Éteindre la lumière, pas faire couler l'eau, etc., etc. Il faut aller
plus loin. Parce que ça coûte plus cher.
Aussi, ça, c'est un facteur incitatif qui aide à adopter des comportements vertueux. Mais donc, maintenant, il faut passer à l'échelle, avoir des politiques publiques, etc. Et donc, quand on descend eh bien, dans l'application, c'est là que les choses vont se braquer. On a eu des pénuries d'eau, on va en avoir demain.
On peut dire qu'il fait, je crois, 27 degrés dans les Pyrénées-Orientales, là où
voilà,
on
c'est
se
le
parle,
département hein, voilà. qui est le plus en, voilà. en sécheresse. On aura demain des vrais sujets, par exemple, sur la ressource en eau. Alors, pour l'instant, c'est les agriculteurs qui étaient en première ligne avec les méga-bassines, etc. La France est le deuxième pays au monde en nombre de piscines privées installées. Avec une industrie de la piscine qui marche très bien. Et là aussi, ça fait partie du rêve français, la maison avec jardin et piscine. Et demain, peut-être on dira, bah maintenant, les piscines, c'est plus possible. Ouais. Hein, et donc, c'est pour ça que ça se tend.
Ça se tend parce qu'on passe aux travaux pratiques.
Les colloques, on est maintenant aux travaux pratiques et l'implication.
David Doucan.
Pas uniquement à cause des travaux pratiques, les choses se tendent aussi parce qu'il y a un retour de bâton, un effet boomerang d'un discours politique écologiste qui s'est radicalisé à bien des égards. Et l'air du temps est en train d'évoluer à cet égard-là. Regardez les résultats des écologistes aux européennes de 2019, ils ont fait plus de 13%, 13,72% de tête, et là, les sondages leur donnent 6 ou 7. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut plus manger de la viande. Les enfants n'ont plus le droit de rêver de devenir des pilotes d'avion. L'arbre de Noël, le sapin de Noël, c'est un arbre mort. Je prends volontairement les choses qui sont les plus marquées. Le Tour de France, ça pollue. Il faut faire attention, à mon avis, dans ces utilisations de discours politiques, de ne pas arriver à l'effet inverse. C'est-à-dire que la cause climatique est évidemment majeure. Évidemment majeure, elle est vitale au fond. Mais ces discours-là, d'abord, il faut démontrer leur efficacité. Je parle surtout l'avion, bref. Mais l'immense majorité de nos concitoyens les vivent comme des choses qui n'emportent pas et qui, au contraire, isolent.
On va poursuivre cette discussion pour savoir si. Au fond, Gabriel Attal a entendu ce que vous êtes en train de dire sur la façon dont les écologistes défendent leur cause. En tout cas, trop polluante, trop lourde, trop encombrante. Anne Hidalgo a donc appelé les Parisiens aux urnes pour trancher sur un sujet qui divise. Faut-il taxer plus, en fait, ce qui pollue le plus ? La faible participation est contestée par les oppositions qui dénoncent un exemple, nouvel exemple, d'écologie punitive. Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
À voter contre les SUV. Cela coûtera 3 fois plus cher pour garer ces grosses voitures à Paris. La mesure était soumise à une consultation citoyenne hier. 55% des votants ont souhaité cette surtaxe, une victoire pour la maire de Paris.
Très heureux, très fier de ce résultat et que finalement ça valait vraiment la peine de poser cette question. Elle était débattue, elle est clairement tranchée.
Une mesure contre des voitures jugées trop polluantes, trop lourdes et encombrantes. Du côté de l'opposition de droite, on critique une très faible participation, seulement 78 000 votants. Et un combat contre la voiture par tous les moyens.
Le fiasco idéologico-écologique d'Anne Hidalgo est une honte pour Paris, une participation ridicule pour camoufler une pure idéologie aux antipodes d'une écologie pragmatique.
Bref, de l'écologie punitive. La formule est de plus en plus utilisée pour disqualifier toute politique verte contraignante. Le terme est à la mode.
L'écologie, oui. L'écologie punitive, non.
De l'extrême droite jusqu'au gouvernement.
Madame la Présidente, certains voudraient une écologie de la brutalité. Pour eux, l'écologie doit être punitive, douloureuse. Je crois au contraire qu'on ne fera pas l'écologie contre le peuple.
Nous devons sortir de l'écologie punitive pour être dans une écologie des solutions. Et c'est ce que nous faisons. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas se nier et non plus se renier.
Ne pas se renier, mais en tout cas reculer. Face à la contestation du monde agricole, le gouvernement repousse sa loi, appelée Ecophyto, et fait une pause. Ce plan prévoit la baisse des pesticides, mais plusieurs syndicats agricoles n'en veulent pas. Alors hier, le ministre de la Transition écologique tente de se justifier.
Il n'a pas été dit qu'on arrêtait le plan phyto, il a été dit qu'on le mettait sur pause jusqu'au salon de l'agriculture. La stratégie éco-phyto, c'est quoi ? C'est de dire qu'il faut baisser l'usage des pesticides. Et il faut les baisser avec un objectif chiffré de moins 50%, mais avec un principe, pas d'interdiction, sans solution.
Colère chez les écologistes. Cette pause annoncée pendant 3 semaines est perçue comme un renoncement du gouvernement.
Macron avait dit en 2022 en meeting à Marseille, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Alors, si il n'est donc pas.
C'est criminel. Ce qui est en train de faire ce gouvernement, du point de vue de la santé publique, du point de vue de la santé des agriculteurs vis-à-vis de l'environnement, c'est tout simplement criminel.
Colère et désillusion. d'autant que le gouvernement n'est pas le seul à rétro-pédaler. Exemple avec les ZFE. Lancées en 2019, les zones à faible émission visent à exclure des véhicules trop polluants d'agglomération. Hier, la présidente de la métropole de Marseille annonce qu'un durcissement n'est pas tenable. Pour certains Français, il serait impossible d'acheter une voiture en conformité.
Je ne mettrai pas en application l'extension de la zone à faible émission en 2025. Il faut du temps, il faut être plus tolérant.
L'élu d'hiver droite se dit également opposé à une surtaxe sur les SUV. Un tacle à la maire de Paris.
En fait, c'est aussi la méthode qui est contestée.
Oui, c'est évidemment la méthode parce que, en fait, personne n'a la bonne méthode. Personne ne l'a trouvée.
Pour faire la transition écologique.
Bah oui, c'est une. En plus, ça va très très vite. C'est-à-dire que plus on vous dit que la fin du monde approche, eh bien, plus on se dit qu'il faut aller vite. Et plus les politiques veulent aller vite. Et donc là, il y a une espèce d'emballement. Il n'y a eu aucune réflexion. Sincèrement, il n'y a eu aucune réflexion.
Quoi, sur les SUV ?
Sur les SUV, sur l'agriculture. Il n'y a eu aucune réflexion partout pour savoir comment on faisait cette transition. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en pleine phase de transition, tous azimuts d'ailleurs. Tous azimuts, pas uniquement sur la façon dont on se comporte en ville, la façon dont on produit. On produit aussi bien de l'agriculture que de l'industrie, que des produits manufacturés. C'est tout ça qui est à l'ordre du jour. Et alors pour les véhicules, pour revenir aux SUV, on s'est réveillé un beau matin en disant, bon ben voilà, on va interdire les SUV de telle taille. Pourquoi de telle taille alors que vous avez des SUV qui sont plutôt importants et encombrants,
mais qui sont parfois
moins polluants, qui sont électriques, bien sûr, moins polluants pour certains que des petites voitures qui ont plus d'âge et qui sont très polluantes. Voilà, tout se fait par la répression et par l'interdiction. Et ça, c'est ce qui est assez mal supporté par les gens et c'est surtout ce qui a des conséquences économiques aussi très importantes. Parce que c'est une mutation économique derrière.
Commence-t-on à avoir honte d'avoir un SUV comme on commence à avoir honte de prendre l'avion ?
Non mais pour tout de même faire vivre un peu le débat et prendre un petit peu la défense d'Anne Hidalgo dans cette initiative, de, non pas d'interdire, mais en tout cas de rendre la vie impossible.
C'est très cher hein, le stationnement, du coup. Non, mais, on l'a vu passer tout à l'heure le prix. Hein.
L'objectif politique, il est totalement assumé, c'est de rendre la vie impossible aux automobilistes en général et en particulier aux propriétaires de véhicules plus gros. On a un sujet à Paris de partage de l'espace, malgré tout. Les modifications qui ont été apportées, pour certaines très positives, construire de nombreuses pistes cyclables, bâtir des voies de bus qui permettent malgré tout, quand on prend le bus, moi ça m'arrive avec les enfants, bah, le bus avance, donc ouais. Ça c'est positif, mais ça prend de l'espace, c'est bien normal. Et donc l'espace restant, il faut le partager entre les voitures, les scooters, les vélos et les piétons également. Et donc dans cette logique-là, l'idée de dire, et sans parler du coup de l'aspect polluant,
ouais,
là, je suis vraiment sur la taille.
Ouais, bien sûr.
Les voitures trop grosses, eh bien, elles prennent plus d'espace. Ouais. À cet égard-là, Yves, on peut, je pense, reconnaître qu'il y a au moins une logique, il y a une argumentation que l'on peut comprendre dans la démarche qui a été celle de la maire de Paris.
Et encore une fois, on précise que ces débats-là sont dans toutes les grandes métropoles. Je citais tout à l'heure Martine Vassal, donc, qui, elle, dit en gros qu'elle n'est pas du tout favorable hein, à Marseille à taxer les gros SUV. Et elle dit même sur les zones à faible émission, alors c'est l'air qu'on respire, c'est les microparticules, c'est très mauvais pour la santé. Elle dit non, on ne va pas y arriver. On va différer l'application du critère 3, c'est-à-dire interdire les voitures de rentrer dans les villes, ces voitures polluantes de rentrer dans les villes. Certaines autres villes font des aménagements comme Montpellier qui dit on va le faire, mais vous aurez le droit de rentrer dans les villes quand vous avez une voiture critère 3, 52 jours par an. Donc comment est-ce qu'on va faire appliquer ces mesures ? C'est aussi tout cela qu'il y a derrière.
Bien sûr, et il faut savoir que c'est très important levier de contre-pouvoir l'écologie pour les villes. Et ça, c'est pas uniquement en France hein, que ça arrive. En Espagne, le niveau d'endettement dû justement aux nouvelles infrastructures a amené à des recours entre les villes contre l'État central en disant on est asphyxié, etc. Pas mal de villes urbanisées de France avaient fait de telles menaces contre l'État. Donc oui, il y a en effet des myriades de couloirs d'application qui vont être aujourd'hui ouverts aux villes urbaines que l'État ne maîtrise pas et sur lequel on peut même dire que l'État se défausse assez largement. J'ajoute quand même qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui est très intéressante là-dessus, qui était celle sur la taxe carbone qui avait été voulue par François Hollande et où on s'était rendu compte que le niveau d'exonération était encore beaucoup plus grand que le niveau de la taxe qui était prévue pour les émetteurs, si bien que le Conseil constitutionnel a dit mais là on a affaire à un dispositif qui n'a même plus de logique propre et c'est pour ça qu'il a été censuré. Et ça veut dire quelque chose de notre manière de légiférer en matière d'environnement en France, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas vraiment encore réfléchi à comment on peut aider un petit peu les nouvelles mobilités et tout ça ce sont des réflexions qui sont longues. La France n'est évidemment pas la seule, mais c'est vrai que cette idée d'avoir de la planification, c'était ce qui avait été voulu par Emmanuel Macron au départ, c'est quelque chose qu'on voit bien qui n'a pas encore de consistance aujourd'hui. Et ça oppose, à mon avis, le Emmanuel Macron de 2017 à l'Emmanuel Macron d'aujourd'hui, où justement les vœux étaient vraiment là, où on avait une piste et où finalement...
Alors justement, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on a un gouvernement qui a décidé de freiner sur la question écologique? Quand on voit, donc, on l'a vu dans le premier reportage, la question des pesticides, où il est urgent de faire une pause, notamment jusqu'au, sans doute au salon de l'agriculture. Prisca Thévenot, dit porte-parole du gouvernement, dit « nous devons sortir de l'écologie punitive pour être dans une écologie de solution ». Est-ce que, du coup, il est urgent d'attendre et en tout cas, ça devient peut-être, puisque l'agriculture est au-dessus de tout, l'écologie n'est plus au-dessus de tout.
Alors, le gouvernement se défend en disant on ne recule pas, on met une pause et on est déjà les mieux disants en matière environnementale au plan européen. Et donc, attendons que nos partenaires et néanmoins concurrents des autres agricultures européennes se mettent à notre niveau et ensuite, on va voir. Deuxième élément, on reprend au gouvernement l'argumentation qui a été celle de la FNSEA, qui était notamment portée par Christiane Lambert, sa précédente présidente, qui disait « pas d'interdiction sans solution ». C'est sorti ça sur le glyphosate en disant « nous, on n'est pas contre, mais ces produits, on ne les utilise pas forcément de gaieté de cœur, on les utilise parce qu'ils sont obligatoires ou ils sont vitaux dans dans nos process. Et donc, si vous nous interdisez, qu'est-ce que vous proposez en contrepartie. Et puis le troisième point, c'est qu'on peut dire du côté du gouvernement, on va peut-être mettre pause sur les aspects les plus contraignants, mais essayer de passer la surmultiplier sur le développement de solutions alternatives. Typiquement, le leasing social, où pour 100 euros par mois, vous pouvez avoir accès à une voiture électrique. Alors le gouvernement a été débordé par son succès parce qu'ils sont en capacité d'en proposer quelques milliers. Actuellement, il y a eu plus de 100 000 demandes, mais on se souvient d'un président de la République, Emmanuel Macron, qui avait annoncé comme ça au débotté aussi qu'on allait mettre en place 10 réseaux type RER.
Ah oui, c'est vrai, on avait oublié.
Toutes les grandes métropoles françaises, parce que Montpellier, Marseille, que vous citiez, Martine Vassal s'y est dit on va y aller doucement avec la ZFE, c'est qu'à Marseille, c'est pas jouable, vu la dépendance très forte au trafic automobile. Dernier point en termes d'infrastructure, on peut regarder le quotidien des Français, mais il y a également toutes les marchandises. Et le trafic poids lourd, en 1975, 45% du fret passait par le rail, fret marchandise, aujourd'hui c'est 10%. Donc on peut dire, on peut mettre la ZFE, des critères, mais regardez la noria de camions qui circulent H24 sur toutes nos autoroutes, et également les nationales parce que c'est moins cher. Et donc comment on essaye, on avait parlé à un moment d'un grand plan fer-routage, etc., etc. Et tout ça, en général... sans lise et sans sable. Et donc je pense qu'aujourd'hui, politiquement, pour le gouvernement, on peut peut-être faire la pause sur les mesures les plus contraignantes, mais il ne faut absolument pas lâcher l'autre versant en disant on sera d'autant plus fort pour demander ensuite des efforts aux Français si on a été en capacité de montrer qu'on développait des alternatives, typiquement un grand plan sur le covoiturage, en disant aux portes de toutes les agglomérations... Si on incite les gens à prendre les transports en commun ou à covoiturer en disant, par exemple, sur un périphérique, ceux qui sont en covoiturage avec une vignette spéciale, ils ont un axe dédié. Est-ce que les infrastructures ont été pensées en amont? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un parking sécurisé où on peut accéder facilement?
Mais... David Doucan, juste sur le côté politique, quand on entend le gouvernement dire « c'est la fin de l'écologie punitive », c'est déjà, j'allais dire, un virage à droite. Je reprends la lecture qui était la vôtre au début, l'idée de taxer, etc. C'est déjà un changement dans le dialogue et dans les mots qui sont utilisés, qui traduit peut-être une volonté politique de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron.
Ça traduit surtout l'appréhension d'une réalité politique. Quand vous êtes aux affaires, quand vous gouvernez, c'est très difficile de gagner sur le terrain de l'écologie. Parce que, en fait, vous gouvernez vraiment. Donc quand vous appuyez sur un levier, il se passe des choses. Mmh. Il y a des conséquences. Mmh. On les a évoquées maintes fois depuis le début de
donc des mécontents, donc des fractures.
Oui, mais puis pas des conséquences anodines, des conséquences pour la vie des gens au quotidien. Toutefois, ça ne veut pas dire pour autant qu'on considère que l'objectif de défense de l'environnement, tous les moyens possibles que l'on peut activer pour enrayer le dérèglement climatique ne doivent pas être mis en œuvre. Mais ils sont aux affaires. C'est, dans l'opposition, c'est plus, au fond, le discours est plus facile, puisque... Mmh. Voilà. Que dit
on pourrait dire ça à Anne Hidalgo, elle est aux affaires et elle prend des décisions.
Mais elle en assume
les conséquences.
Il y a des mécontents. Ouais. Elle a toujours, d'ailleurs, assumé de faire des mécontents, Anne Hidalgo. Bah oui, bah elle gouverne. Voilà. Ouais, c'est vrai. Au niveau d'un pays, c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement la même chose.
Moi, je pense que.
Austria.
Je vais être très, très dur et peut-être un peu cynique.
Vous nous avez prévenu.
Le gouvernement. Il n'avait pas d'autre carte. S'il voulait arrêter... Parce que là, le sujet, c'était pas on défend ou on défend pas l'écologie. C'était on arrête
le conflit, colère sociale.
Le conflit paysan. Parce que si on n'arrête pas le conflit paysan, ça dégénère, ils nous prennent en otage, et le Premier ministre qui vient d'arriver est dans une situation catastrophique à ce moment-là, il embarque le président avec lui, et la France se retrouve sans dessus-dessous. La mémoire quand même des Gilets jaunes est passée par là. Hein. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça termine. Et là, ils ont coupé court en prenant des décisions qui sont des décisions radicales, qui sont des décisions, on arrête l'écologie. On suspend.
Ouais, on fait des pauses.
Attendez, on va pas se raconter d'histoire. On suspend d'ici à la fin du mois de février.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va décider d'ici à la mois de février? Rien du tout. Rien de concret.
Il a souvent été reporté, ce plan.
Évidemment, qu'il soit jouable. Il faut le dire une chose aussi, que on a un peu oublié, c'est que le fameux Green Deal, c'est-à-dire le plan vert européen, il n'est pas encore appliqué. On ne l'a même pas appliqué. Il n'est pas transposé en France encore. Donc on a anticipé, les agriculteurs anticipent ce qu'on va leur imposer. À côté d'autres normes qui sont, c'est vrai, déjà appliquées. Mais il est là le sujet, c'est que finalement, le gouvernement, je suis assez d'accord, il est au pied du mur, il ne sait pas comment se sortir de cette histoire. Madame Hidalgo, elle ne gouverne pas la France, elle gouverne une ville.
Ouais.
Et elle prend des mesures, elle assume ces mesures.
C'est pas la même échelle.
Elle est impopulaire.
C'est pas la même échelle.
Mais là, c'est quand même différent, parce que là, vous avez toute une chaîne de production qui est en jeu, avec des emplois, avec une fierté française qui est quand même l'agriculture, qui n'est pas rien. Et donc, c'est compliqué, c'est très, très compliqué.
D'un mot, il n'y a aucune solution. Juste d'un mot, il n'y a aucune solution simple. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est que le sujet est d'une complexité gigantesque. Vous ne pouvez pas dire, c'est pas le coup de baguette magique ne fonctionne pas. Si on veut vraiment... agir sur le climat, il y a la solution de la décroissance. Sauf que je pense que nous sommes tous collectivement attachés, par exemple, à notre santé gratuite, à l'éducation gratuite, à avoir quand même une armée qui fonctionne, de la police, de la sécurité. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc si vous n'avez pas de système productif qui tourne, qui fonctionne, qui crée de la richesse... Les services publics aussi disparaissent.
Anne-Charlotte Bézina.
Précisément, il y a trois points que j'aimerais ajouter. D'abord, la première chose, vous parliez d'une gouvernance multiniveau, et ça, c'est vrai que sur l'écologie, on s'en rend vraiment compte. Il y a une appétence citoyenne, d'où ces consultations, ces votations. Au niveau de la proximité, on se rend plus compte de cette conscience écologique. Et par contre, au niveau national, tout de suite, on va mettre un frein. Parce qu'on rentre dans la... coercition, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas dans la sanction normative. Et donc, du coup, les choses vont beaucoup moins bien au niveau de l'écologie nationale que locale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se constate dans le monde. Le dernier plan, d'ailleurs, de l'ONU s'appelait Mieux gouverner l'écologie par les petites villes, parce qu'on se rend compte que c'est par là que ça passe. Deuxième point, il n'y a pas de choix, en fait, véritablement, pour le gouvernement et pour l'État de s'engager dans la transition écologique, parce que ce sont non seulement des impératifs européens et des impératifs internationaux dont l'État a signé des accords et fait partie, c'est aujourd'hui des punitions de nos juges. C'est-à-dire qu'on a eu l'affaire Grande-Synthe, on a directement maintenant des juges qui astreignent à l'État de respecter ses obligations, notamment en matière de climat, où on voit que les Français sont d'ailleurs beaucoup plus renseignés. Et puis peut-être un troisième point, c'est que non seulement il y a de la gouvernance multiniveau, non seulement il y a des obligations, mais la régression, si, elle est là, évidemment. Ne serait-ce que dans l'intitulé de notre ministère, on a un ministère de l'économie et des énergies. Donc ça prouve qu'en fait, on a fait récupérer à l'économie le secteur énergétique. Donc on entend plutôt le ramener vers la liberté de droite dont nous parlait Yves Tréhard.
Mais par peur des colères.
Peut-être aussi
par peur des colères ou par... Oui.
Je pense qu'il y a une peur des colères, bien sûr. On le sent dans tout le champ lexical d'Attal, hein, d'aller plus dans l'empathie, dans le fait d'essayer d'être un peu moins coercitif. Et puis, par rapport au fait aussi, peut-être que ça n'est plus la priorité de ce mandat-là. Il faut se le dire, il avait vraiment axé le mandat de 2017 là-dessus. Je crois vraiment que celui-là n'est plus du tout là-dessus. On est sur un discours...
L'ordre de priorité des Français, c'est où, l'écologie?
Au milieu de tableau. Donc, c'est pas... Voilà, on est dans la fin du monde, fin du mois. Et donc, même si les Français sont pleinement conscients de tout cela, il y a d'autres enjeux. Et comme vous disiez, il y a toutes ces filières économiques qui tapent à la porte en disant on a notre compétitivité qui se dégrade, et il faut faire quelque chose.
Alors, il y en a une autre qui tape à la porte, c'est Rachida Dati. Elle a parlé de ce sujet-là et elle a dit la mairie de Paris confond la lutte contre le réchauffement climatique avec le refus des autres. On en parlait tout à l'heure.
Elle met le doigt là où ça fait mal. C'est l'une des marques de fabrique de Rachida Dati. Elle vise juste, elle sait faire un peu de politique. Est-ce que ce qui est visé, c'est ce que vous possédez? Ou est-ce que c'est ce que vous êtes? C'est cette question-là qui
est... En tout cas, Rachida Dati, elle est devenue sans doute le cauchemar de Anne Hidalgo quand elle était encore au Conseil de Paris. Rachida Dati, à peine arrivée au ministère de la Culture, a annoncé d'ailleurs sa candidature à Paris. La nouvelle ministre capte la lumière, occupe le terrain, continue quand même de distribuer les paires de gifles à ses anciens amis. Magali Lacroze et Arnaud Foira.
Et la surprise du chef, c'était elle. Dans ce nouveau gouvernement Attal, la prise de droite, l'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, devient ministre de la Culture. Tout un symbole. Face à la presse, Rachida Dati savoure.
Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Par mon parcours, la culture est un combat. Alors chacun sait que j'aime me battre. N'ayez pas peur.
S'il y en a bien un qui n'a pas du tout apprécié, c'est le patron des Républicains. À la télévision, il raconte les coulisses de ses échanges avec le tout nouveau Premier ministre.
Il m'a rappelé après que le gouvernement soit sorti, il m'a dit, tu sais, je suis un peu désolé, mais Rachida Dati, c'est pas LR. Rachida Dati, c'est une marque que l'on a achetée. C'est un coup politique qui est censé nous faire mal, bien sûr. Et personnellement,
c'est réussi.
J'ai été peiné parce que Rachida est une amie.
Désormais, Rachida Dati ne fait plus partie de la famille des Républicains. À droite, pour ses anciens amis, c'est fini.
C'est toujours surprenant de voir des gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire, surtout quand on connaît la fin de l'histoire.
Mes chers collègues, le débauchage ne fait ni de bien à la démocratie, ni de bien à la politique. Parce que signifier que tout se vaut, la droite comme la gauche, la fidélité comme les revirements, ça veut dire que rien ne vaut et que tout est faux.
Quelques minutes plus tard, réponse synthétique de la ministre.
La jalousie est un vilain défaut.
L'atout de droite du président est aussi celle qui, depuis des années, s'oppose frontalement à la maire socialiste de Paris.
C'est pas le tout vélo contre la voiture. Il faut un équilibre de tout. Il faut un respect. Moi, je serai la mère de tous les Parisiens. Je ne serai pas la mère uniquement des cyclistes.
Est-ce que j'ai dit que j'étais contre la voiture, pour la voiture, contre le vélo? Non, il faut simplement que ce ne soit pas l'anarchie. Aujourd'hui, la mobilité à Paris, c'est l'anarchie.
Année après année.
Vous êtes, messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show.
Cette mésentente très politique a pour scène le Conseil de Paris.
Alors, face à ce désengagement, à son manque de soutien, quant à nos investissements nécessaires à l'adaptation climatique de Paris...
Et voilà pourquoi sa meilleure ennemie est peut-être l'une des seules à se réjouir de sa promotion.
Dans cet hémicycle du Conseil de Paris, où on a quand même vécu des épreuves pendant 3 années d'injures, d'insultes permanentes. Vous savez quoi, ça va nous faire un peu des vacances et ça me réjouit.
À peine nommée, déjà bien entourée ou bien surveillée. Premier déplacement accompagné par le président qui salue son talent et sa liberté. Et quand certains y verraient pour la ministre l'occasion de faire une campagne pour la mairie de Paris...
Nous n'avons pas parlé de Paris, vous aurez du mal à me croire quand je vous dis ça.
Mais c'est vrai.
Et pourtant, dès le lendemain matin...
Je suis déterminée, vous le savez. Donc ça ne change rien.
Vous serez candidate à la mairie de Paris ?
C'est dans 3 ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Enfin, je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Eh bien, on va recommencer.
De la difficulté de composer avec Rachida Dati, la protégée de Nicolas Sarkozy, l'électron libre de la Macronie, désormais sans parti, qui ne cache pas son désir de prendre Paris.
Oui, juste pour boucler sur Paris, elle sera au Conseil de Paris demain. Elle va la retrouver, du coup.
En tout cas, ça dure 3 jours, le Conseil de Paris, ça commence demain. Bon. Clairement, que ce soit demain ou un autre jour, elle ira, oui.
Il y a encore cette question sur Paris. Après, on passera à la constitution de cette équipe 2 du gouvernement. Rachida Dati est-elle assurée de gagner la mairie de Paris? On n'est jamais assuré de rien, mais...
Elle est probablement la figure à droite qui est la mieux placée. Elle a des troupes dans Paris. C'est elle qui a la plus grande popularité. Et elle a une chose qu'à droite, d'autres n'ont pas, absolument pas, c'est qu'elle peut, séduire des voix de gauche. Il faut se promener avec Rachida Dati dans des quartiers extrêmement populaires de l'Est parisien ou de la banlieue même de l'Est de Paris. Et c'est une star. C'est une star. C'est Johnny Hallyday.
C'est une marque, on a entendu dans le reportage.
C'est une marque, mais c'est vrai. Vous arrivez, il y a une curiosité. Il y a aussi, je dirais, des gens qui s'identifient à elle, parce que c'est la petite beurette qui est montée dans les échelons, qui a réussi. Et elle séduit beaucoup, hein, elle séduit beaucoup.
Il paraît qu'on l'appelle Queen D ou Dati Daniel.
Queen D, oui, exactement.
Qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas.
Mais c'est quelqu'un qui est transgressif.
Elle réussit ses premiers pas, elle incarne ce dont nous débattons aussi ce soir, c'est-à-dire ce virage à droite, cette droitisation de l'équipe gouvernementale.
Anti-Le Pen, oui, bien sûr.
Voilà. Est-ce qu'elle réussit ses premiers pas au ministère de la Culture? Est-ce qu'il y a déjà une façon de faire qu'elle a impulsée? C'est vrai qu'on l'a beaucoup vue aux côtés du président, aussi en Inde, où elle capte la lumière, comme on dit.
Alors, droitisation, peut-être. Professionnalisation, sûrement. Je pense qu'elle répondait aussi à ce besoin qui existait quand même dans l'équipe gouvernementale précédente et même dans les équipes gouvernementales précédentes. C'est aussi... L'une des conséquences du Nouveau Monde, beaucoup de responsables politiques très expérimentés ont disparu, et elle est venue apporter cette professionnalisation sur la culture. En réalité, elle a pour l'instant pas grand-chose de très précis à dire, à annoncer sur des dossiers très chauds, l'audiovisuel public, elle en a un petit peu parlé ce dimanche, mais la rémunération des auteurs, l'immense défi posé par l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle n'entre pas trop dans les détails. Elle dit « je veux une culture populaire accessible à tous ». C'est un peu général. Mais ça s'appelle l'expérience. Se précipiter face à un public qui, en plus, n'est pas acquis. Bon, on l'a bien compris.
Elle le sait. Elle s'en amuse.
Elle le sait très bien, elle s'en amuse.
Elle a dit quand je vais partir, vous allez voir, vous n'allez pas pleurer. Vous n'allez pas m'applaudir, vous allez pleurer.
Se précipiter, c'est se mettre en danger. Elle le sait parfaitement. Ça, c'est l'expérience aussi acquise à l'époque de Nicolas Sarkozy quand elle était garde des Sceaux. Et sur la professionnalisation, vous me demandiez.
Oui.
Elle est allée effectivement en Inde avec le président de la République. Oui. Dans l'avion du retour. Je vous donne cette...
Allez-y. Crise.
Dans l'avion du retour, ils ont échangé avec le chef de l'État sur la crise agricole. Ils ont parlé de la crise agricole. Elle lui a donné son point de vue, ses conseils, ou en tout cas ses recommandations. À l'atterrissage à Paris, elle a filé discrètement à Angoulême pour le festival de la bande dessinée, où elle devait se rendre, sans quoi les auteurs de bande dessinée ne l'auraient pas compris. Mais sans caméra, sans qu'aucune presse ne la suive, en marge du festival de bande dessinée, elle est allée voir des agriculteurs dans une exploitation agricole pour discuter avec eux, pour prendre la température, pour échanger sans presse.
Ouais.
Donc c'est
elle
ça
sait faire.
Ouais. C'est ça aussi qu'elle apporte à Emmanuel. C'est ça qu'Emmanuel Macron est aussi allé chercher. Et dernier point, avant le discours de politique générale, Gabriel Attal a organisé une réunion avec quelques ministres les plus importants pour justement entrer dans les sujets. Croyez-vous qu'elle ait parlé de culture uniquement ?
Non.
Pas du tout. Elle a parlé de sécurité, elle a parlé de violences faites aux femmes, elle a évoqué, au fond, presque tous les sujets pour apporter, au fond, sa vision au Premier ministre. En a-t-il retenu quelque chose ? Sans doute. Mais en tout cas, voilà, il y a ce rôle-là, vous voyez, ce rôle qui consiste à un petit peu se déployer sur tous les sujets, pas uniquement la culture.
Jérôme Fourquet, est-ce qu'elle apporte ce qu'elle est censée avoir pris, quand on voit la tête que faisait Éric Ciotti, avoir pris à la droite. Est-ce qu'elle elle incarne cette conception-là de la droite? Est-ce que ça positionne le gouvernement?
Alors oui, en partie, parce qu'elle est, elle est très marquée par son passage dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy. Donc l'électorat de droite a retenu ça. Mais je pense qu'il y avait deux autres objectifs qui lui sont assignés. D'abord, c'est d'affaiblir encore un peu plus sa famille d'origine. Et donc ça, on l'a entendu, Éric Ciotti, ouais, etc. Donc à chaque fois qu'elle parle ou que les autres viennent la chercher, les renvoie dans leurs cordes. Et donc ça contribue, c'est un objectif constant d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est d'affaiblir cette famille politique. Et elle le fait très bien.
Ouais.
Et puis l'autre objectif, même si elle n'est pas rentrée dans le détail des grands sujets, le détail technique, c'est aussi le fait de dire on va rendre moins élitiste cet univers de la culture. Et moi qui viens d'un quartier difficile, moi qui suis issu de l'immigration, j'incarne parfaitement ce discours-là. Et c'est une volonté aussi et de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron de casser ou d'essayer de casser le côté un peu start-up nation de la Macronie, en disant voilà, on va prendre quelqu'un qui est étiqueté origine populaire, et elle sait très bien le faire et elle est connue pour ça.
Oui, justement, on est un peu sur le prisme de ce qu'elle apporte,
ouais,
et de ce qu'elle incarne, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'elle est aussi objet de tout ça, c'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui incarne à travers elle. Surtout sur la culture, on a bien vu dans sa conférence de presse qu'il entendait occuper le terrain, que ça fait partie, on le sait, de ce qu'aime l'homme, etc. Donc il entend afficher une politique et il se sert évidemment du levier Rachida Dati pour que ça soit plus efficace avec ses origines, avec son franc-parler. Et j'ajoute aussi qu'on ne doit pas oublier que ce gouvernement est certes un nouveau gouvernement, mais toujours avec la même majorité au sein de l'Assemblée nationale.
Oui,
c'est-à-dire qu'on aura des débats particulièrement musclés. On parle de Rachida Dati comme la reine des punchlines. Et bien précisément, je pense que c'est dans ces moments qu'on a besoin d'un ministre particulièrement combatif. Et je pense que, évidemment, ça, cette personnalité, cette manière de répondre, fait partie un petit peu de ce qu'Emmanuel Macron recherche. Et la culture, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment quelque chose qu'elle incarnera personnellement. Je pense qu'elle est aussi l'objet des désidératas du président.
Est-ce que on est au moment, on évoque la façon de faire de l'écologie, cette droitisation commentée de ce gouvernement, on est au moment où il y a une deuxième salve de nomination qui pourrait arriver, ça se discute, ça pourrait se faire en fin de journée ou plutôt demain. Est-ce que là, à votre avis, le gouvernement et Gabriel Attal et Emmanuel Macron vont avoir à cœur de corriger le tir, c'est-à-dire de faire rentrer des écolos, de faire en même temps
vraiment,
du début
Ça sera vraiment pour l'entre-soi politique, ça sera visible par l'entre-soi politique.
D'accord.
Parce que je ne vois pas très bien quelles grandes figures ils peuvent faire rentrer. Donc, ils vont faire rentrer quelques secrétaires d'État. Moi, je ne crois pas du tout à François Bayrou. Hein.
On va en parler.
Ils vont faire rentrer quelques personnalités qui vont...
Mais pas pour rééquilibrer, pour satisfaire la
interne,
gauche, non ?
Ça va être visible par le petit milieu politique et médiatique. Mais les Français, ce sont des gens qui ne vont pas connaître du tout.
Parce que
ça va pas...
Mais ça traduit une intention.
Les principaux poids lourds sont là.
Les postes de choix ont déjà été pourvus.
Bah oui.
Donc débaucher un gros poisson ou une figure importante pour lui donner un secrétariat d'État ou un ministre délégué,
c'est pas possible.
Vous attrapez pas
du lourd
avec du vinaigre. Oui. Donc, voilà.
Non, mais vous parliez de rééquilibrage vers la gauche, je crois pas qu'il y ait cette intention. Emmanuel Macron, lui, considère que son gouvernement avec Gabriel Attal à Matignon incarne toujours le dépassement.
Bien sûr.
Il considère que sur ce point, il n'a pas besoin d'équilibrer davantage.
Et puis Rachida Dati a une fonction précise aussi, c'est une arme anti-Le Pen. Et son combat...
C'est pas une arme anti-Hidalgo ?
Anti-Le Pen. C'est anti-Le Pen. Parce que, pourquoi ? Et c'est pour ça qu'elle va, sur le terrain de la culture populaire. C'est aussi parce qu'elle veut casser, il lui a demandé de casser le petit milieu artistique, qui est réputé plutôt à gauche, tout ça. Et c'est une arme anti-Le Pen. Et elle sait parler, d'ailleurs. Elle parle le peuple, Rachida Dati. Le peuple que la plupart des partis ont perdu, sauf le Rassemblement National.
Vous l'avez cité tout à l'heure rapidement, hein, François Bayrou, c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever, c'est ce qu'a déclaré François Bayrou qui a été relaxé ce matin dans l'affaire des assistants parlementaires. Alors forcément, son nom circule au moment où Gabriel Attal peaufine l'acte 2 de la constitution de son gouvernement, Laura Rado et Ilana Azinko.
Bonjour Monsieur Bayrou.
Il s'est déplacé en personne ce matin pour écouter le verdict du tribunal correctionnel de Paris. La relaxe pour François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires. Un soulagement et une victoire personnelle.
Moi, évidemment, c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal. Et évidemment, je pense au gâchis que ça représente, au gâchis politique.
L'affaire lui a en effet coûté cher. 21 juin 2017, François Bayrou, tout juste arrivé place Vendôme, doit déjà renoncer au fauteuil de garde des Sceaux. Le Modem est soupçonné d'avoir rémunéré des assistants travaillant pour le parti avec des fonds européens.
Je choisis la liberté de jugement et la liberté de parole. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens.
Un crève-cœur, presque une injure pour celui qui a fait de la moralisation de la vie publique un cheval de bataille. Les juges accusent François Bayrou d'atteinte aux valeurs de probité et d'exemplarité. Lui, nie en bloc.
Nous n'avons jamais utilisé ces procédés-là. Chez nous, tous ceux qui étaient assistants parlementaires de députés européens avaient un contrat à temps partiel pour le député européen et à temps partiel pour le mouvement.
Pendant 7 ans, donc, le centriste cultive sa proximité avec Emmanuel Macron et distille ses conseils.
Il se trouve que j'ai la chance de parler avec le président de la République, pour ainsi dire, presque tous les jours.
Mais n'hésite pas à critiquer le chef de l'État, comme en 2022, lors de la réforme des retraites.
L'annonce de la retraite à 65 ans, qui a été faite de manière un peu brutale ou très brutale, ne correspond pas à la réalité. Parce que la première chose qu'il aurait fallu commencer par dire, c'est un, on va tenir compte des carrières longues, des gens qui ont commencé à travailler tôt, et deux, on va tenir compte de la pénibilité du métier.
8 membres du Modem ont été condamnés ce matin pour contrat illicite. Aucune preuve du rôle déterminant de François Bayrou dans ce système frauduleux. Parmi ses adversaires, certains y voient un signal positif pour leurs propres affaires judiciaires.
Écoutez, toute cette affaire montée de toutes pièces par la Commission européenne pour empêcher tous les partis d'opposition à l'époque de faire leur travail et de faire de la politique s'effondre sur lui-même. Écoutez, c'est une bonne chose.
D'autres anticipent son arrivée au gouvernement avec ironie.
Là, je vois ça bruisse, là, c'est le verrou de secours pour le deuxième mouvement de remaniement ministériel. Il se dit même qu'il serait pressenti pour l'école. Je rappelle qu'en 1994, il avait mobilisé contre lui plus d'un million de personnes pour défendre l'école publique.
Quant au principal intéressé, dont la route s'est soudainement dégagée, envisage-t-il déjà un retour en première ligne ?
Alors on va attendre quelques minutes, quelques heures, pour réfléchir à cet avenir.
Quelques minutes, ou plutôt quelques heures, c'est justement le temps qu'il reste avant que le gouvernement de Gabriel Attal au grand complet soit enfin annoncé.
Alors la question que tout le monde se pose, c'est va-t-il remplacer Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation nationale ? Est-ce que c'est le retour de François Bayrou ?
Oui, c'est effectivement la question que tout le monde se pose. Encore tout à l'heure, j'étais en rendez-vous avec l'un des ministres importants de ce gouvernement qui s'interrogeait là-dessus. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête. C'est une constante quand on s'intéresse à la personnalité et au parcours politique d'Emmanuel Macron. Il ne lâche pas les siens. Ça, vous pouvez le regarder. Observez.
Il a laissé partir François Bayrou. Non. Pourtant, il lui devait sa, son élection en 2017.
François Bayrou a démissionné. Ouais. A démissionné. Parce que, souvenez-vous, juste avant, la ministre de la Défense, à l'époque, Mme Goulard, avait démissionné. Et donc, ça rendait les choses impossibles pour lui. Emmanuel Macron a toujours dit que s'il n'avait pas démissionné, il ne l'aurait pas, il ne lui aurait pas, lui, demandé de partir. Benalla, il l'a gardé je ne sais combien de temps avant de finir par se résoudre à le faire partir. Quand Benjamin Griveaux s'est retrouvé dans une situation difficile, souvenez-vous.
On se souvient.
Voilà, sachez qu'Emmanuel Macron lui avait dit, avant qu'il s'en aille, avant qu'il décide de quitter la course de la mairie de Paris, il lui avait dit, Benjamin, si tu veux qu'on se mette en rang serré derrière toi et qu'on tienne bon face à l'adversité, on le fera. Donc il y a une constante chez lui, ce qui fait dire à beaucoup de responsables aujourd'hui en Macronie qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit de démissionner Amélie Oudéa-Castéra de l'éducation. Mais, à Matignon, le son de cloche est un peu différent.
Il y a une chose qu'il faut aussi interpréter là, sur cette décision de justice, qui est très importante pour Emmanuel Macron, qui en sort grandement renforcé. Oui. Le garde des Sceaux relaxe. Ouais. Le ministre du Travail, M. Olivier Dussopt, relaxe. Bayrou relaxe, Ça veut dire qu'aujourd'hui, le personnel politique vis-à-vis duquel il y a une défiance, il y a une espèce de désamour, mais qui date de loin d'ailleurs, eh ben, et beaucoup à cause de ses affaires, de ça, là aujourd'hui il reprend un peu du poil de la bête, parce que ça veut dire que c'est des années et des années d'attaque de la réputation, comme il l'a dit, ça fait 7 ans. Qu'il subit ça, c'est quand même un rééquilibrage qui est très intéressant.
Oui, mais il y a quelqu'un qui l'a vu.
Au crédit de la politique.
Il y a quelqu'un qui l'a vu, un certain Gilbert Collard, qui sur X a écrit cet après-midi, maintenant que Bayrou a été relaxé, Marine Le Pen peut être détendue. Parce que derrière cette affaire des assistants parlementaires, il y a aussi une affaire qui concerne le Rassemblement national.
Et la France insoumise.
C'est pas exactement pareil. Je suis pas certain qu'elle puisse être totalement détendue, puisque dans le cas de Marine Le Pen, elle était elle-même députée européenne, pardon, à l'époque. Ouais, et ce matin, qu'a-t-on vu ? Ce matin, qu'a-t-on vu ? Tous les députés européens MoDem ont été condamnés.
Sauf lui.
Mais lui, il n'était pas député européen.
Parce qu'il n'était pas censé être au courant. Il n'était pas député européen à l'époque.
C'est une différence.
Ouais. Non. Non, c'est pas je croyais que vous vouliez intervenir, non, Anne-Charlène Bézina.
Oui, néanmoins, la décision arrive un peu tard pour François Bayrou, pour Éric Dupond-Moretti. C'est-à-dire qu'en fait, la défiance, elle s'est installée. Et elle, maintenant, elle change de braquet. C'est-à-dire que finalement, ça n'est plus sur les politiques qu'elle tombe, mais sur les juges. Donc, on est encore dans quelque chose de très tendu à ce niveau-là. Et je crois que le parti MoDem a plus perdu que les autres à cette question parce que la moralisation, la transparence, ça faisait vraiment partie de leur programme politique depuis des années, depuis l'UC, depuis l'UDF des origines. Donc aujourd'hui, le visage meurtri de François Bayrou est vraiment tout à fait symptomatique de ce que ce parti a perdu en termes de réputation politique, etc. Et ça, c'est vrai que l'arrêt d'aujourd'hui ne va pas forcément changer beaucoup les choses parce qu'il y a quand même des condamnations et qu'il y a en plus un manque de preuves qui est à l'origine de la relaxe. Donc on garde quand même encore cette épine dans le pied de la réputation. Et quant à son arrivée au gouvernement, il faut aussi se poser la question de savoir ce qu'il y gagne parce qu'aujourd'hui, la majorité à l'Assemblée nationale, j'y reviens, mais cette majorité relative, elle va nous poursuivre jusqu'en 2026, donc il faut vraiment travailler avec elle. Eh bien, la majorité relative, elle se fait avec les MoDem. Est-ce que François Bayrou a quelque chose à gagner à entrer au gouvernement ? Il a déjà le commissariat au plan auquel il tenait vraiment intellectuellement beaucoup. Ça n'est pas sûr.
Peut-être va-t-il se présenter comme Xavier Bertrand à la présidentielle, puisque ce week-end, Xavier Bertrand s'est présenté à la présidentielle.
Il y songe. Mais évidemment qu'il y songe, puisque de toute manière, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc, la voie est libre.
On aura le temps d'en reparler, du coup. Allez, on revient à vos questions.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.